Aura des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur en Auvergne-Rhône-Alpes.
Une balade dans notre région à travers des sons, des voix et des rencontres.
Une émission proposée par les radios d'Aura FM à la découverte des initiatives locales et des acteurs du territoire.
Aura des pâquerettes.
Tout commence bien sûr par des histoires et des images de cinéma, comme l'apparition d'un homme venu de nulle part, arrivant à cheval au beau milieu du premier festival de cinéma d'Ardèche, ou l'irruption d'un orage qui transforme un simple moment de cinéma en un moment mémorable. C'est l'incursion de la fiction dans le réel, l'apparition de la magie en chair et en os.
C'était l'été, il faisait beau, on passait un film qui s'appelait Victor Victoria. Et puis, c'était l'été, orage d'été. Pof, tout d'un coup, un orage nous tombe dessus, des trompes d'eau, plus d'électricité, tout s'arrête. Les gens sont patients, sont adorables, tout le monde se met à l'abri et on nous dit, c'est un orage d'été, ça va passer. Effectivement, 20 minutes après, la pluie cesse, chacun essuie sa chaise, tout le monde se réinstalle, pas d'électricité. Bon, alors on attend, allô, oui, EDF nous dit que ça va être rétabli dans pas longtemps, une heure passe, bon, ça commence à être très long tout ça. Du coup, le collègue avec qui je faisais la projection, on était là, les gens disaient, bon, et on dit, ben, on va pas pouvoir assurer, il manquait 20 minutes de film, il manquait la fin. Le collègue, il dit aux gens, ben écoutez, si vous voulez, moi, le film, je l'ai vu, je vais vous raconter la fin du film. Et voilà, pendant 5 minutes, il a expliqué, il a dit voilà, maintenant, après, il a fait ci et ça, etc. Voilà. Il y a eu un tonnerre d'applaudissements qu'il n'y aurait certainement pas eu si le film s'était terminé naturellement.
Et donc il a créé un premier festival cinéma et cheval pour essayer d'intéresser les gens du coin, mais qui a pris des proportions assez spectaculaires. Donc il a programmé des westerns, des trucs comme ça, mais aussi, je pense, déjà du documentaire. Et en tout cas, il y a l'apothéose, c'était l'arrivée à cheval d'un acteur sur son cheval qui est arrivé donc, dans la grande salle du Joncas qui était utilisée, qui était à Hangar.
On avait fait une salle dans une grange et donc il fallait libérer la grange. Donc on avait mis les ballots de paille les uns sur les autres pour faire des murs et pour insonoriser le tout. Mais à l'époque, on fumait dans les salles, il n'y avait pas de problème, surtout en ambiance baba cool, même si c'était peut-être pas bien autorisé, et puis c'était pas une salle, c'était une grange. Et ça avait fait un peu du foin quand le propriétaire de la grange était arrivé et avait vu des mégots, et voilà. Donc après, on n'avait plus fumé.
C'est une histoire heureuse, parce que ça aurait pu foirer. Hein. Chaque année, on avait l'impression de jouer à qui tout double et...
C'est une histoire heureuse, mais pleine de rebondissements et d'incertitudes, dont l'un des derniers avatars est la fermeture des salles de cinéma pendant l'épidémie de Covid et le développement des plateformes. Pourtant, en janvier 2023, Christophe Maffi, directeur du cinéma Le Navire à Aubenas, et interviewé sur le bilan des cinémas en 2022, étonne en esquissant des chiffres pas si catastrophiques.
On avait quand même une situation un peu particulière sur Aubenas, puisque bon an, mal an, on arrivait à faire 150, 180 000 entrées. Le plus gros chiffre qu'on a fait, c'était en 2019, donc c'était dans le nouveau cinéma, avec 188 000 spectateurs. Bon, je rappelle quand même, le bassin de population d'Aubenas, c'est 20 000 habitants. Donc bon, c'était quand même des chiffres importants. Et ça, bon, bah, c'est dû au travail de terrain qui a été fait depuis 40 ans par les créateurs du cinéma, l'ancien navire, par Ardèche-Images, enfin voilà, toute cette espèce de pôle culturel, par Fréquence 7 aussi, voilà, il y a un pôle culturel sur l'Ardéchois qui existe depuis longtemps, et puis ben voilà, on en récolte les fruits un peu maintenant, quoi.
Quelle est donc cette histoire de 40 ans qui a permis le succès du navire au départ petit cinéma créé par une bande de copains. Quelle est cette autre histoire qui a rendu Lussas célèbre à travers le monde pour son pôle documentaire? Comment est né ce désir de cinéma? Comment les passeurs d'images, les passionnés, nourrissent, maintiennent et partagent cette immense envie de cinéma au milieu d'une région rurale qu'est l'Ardèche méridionale? Rembobinons le film et plongeons au cœur du 07e art en compagnie de Jean Hafner, Jacques Domas et Jeannot Salavert, pionniers de cette belle époque à la fin des années 70. À l'origine était le désir.
Ce désir de cinéma, ça faisait quelques années qu'il était non seulement en gestation, mais qu'il avait commencé à prendre corps. Les premières actions, ça a commencé à Lussas, avec le festival de Lussas. À la fin des années 70, début des années 80, qui était à ce moment-là le cinéma des pays et régions, Jacques, comme moi, comme bien d'autres, faisait partie de cette aventure-là. Et ce festival avait été créé pour proposer une vitrine des créations régionales et de ce que cette vitrine soit en région, là où on habite, quoi.
Bah, à l'origine, c'est des gens qui s'apprécient, des copains, des copines, et qui se disent, sur le plan du cinéma, c'est un peu triste, faible, on aurait envie de plus que ça, donc attaquons-nous-y et voyons ce que ça va donner. Donc ça commence avec le premier festival des pays et régions à Lussas. On pourrait dire que c'est l'ancêtre des états généraux du film documentaire et du navire. Parce que dans ces années-là, milieu des années 70, il y avait de nombreux cinéastes qui étaient venus s'installer en région. Il y avait René Alliot qui était du côté de Marseille. Il y avait les Le Garec en Bretagne. Il y avait la Maison du cinéma à Grenoble. Enfin. Et donc nous, on s'est dit, une fois dans l'année, là, on va faire un événement autour de ces films qui sont réalisés en région en invitant leurs auteurs. Et ça a démarré comme ça. Il y a eu, je crois, 3 éditions. Et ensuite, Jean-Marie Barbe, donc qui est à l'origine des états généraux de Lussas, est tombé gravement malade. Et ça nous a un peu... c'était un peu notre leader quand même.
Suite à ça, un temps fort d'un festival une fois par an, ça s'est vite révélé insuffisant. Pour répondre à l'attente des gens. Et là a commencé l'aventure des circuits de cinéma itinérants, le cinéma dans les villages. Il y a eu beaucoup de points de diffusion qui ont été créés, des circuits qui ont été créés en Ardèche, dans la Drôme. Et la suite logique du cinéma itinérant, c'était de proposer vraiment un cinéma dédié à l'art et essai, au cinéma d'auteur, à côté des salles commerciales qui existaient déjà. Et c'est là qu'a commencé l'aventure du navire. Donc, entre 80 et 84, il y a eu ce temps, ces phases. Et puis après, le temps de la construction des salles, etc., quoi, pour une ouverture fin 84.
On aimait les films en version originale, on était tous passés un petit peu par la fac, donc on avait fréquenté les ciné-clubs, on avait fréquenté les salles des grandes villes. Majoritairement, moi, le cinéma RSC, je le découvre en arrivant à Grenoble quand je pars à la fac. À Aubenas, c'était difficile, il y avait une séance par semaine, c'était mieux que rien. Et c'est, pour en revenir à votre question de tout à l'heure, à ta question de tout à l'heure, peut-être aussi c'est ça qui nous a dit, qui nous a un peu guidé en disant, mais nous, on y a droit, hein. En Ardèche et partout ailleurs, on y a droit. Pourquoi c'est juste à Lyon, à Montélimar, à Valence? Mais non. Il y a aussi dans ce coin des gens qui ont envie de voir du cinéma d'auteur, y compris en version originale.
Il y avait aussi un vrai désir ici. Alors après, dans le cinéma, comme dans la plupart des activités culturelles ou artistiques, c'est souvent l'offre qui révèle la demande. Il n'y a pas de cinéma, on n'en meurt pas. Les gens font autre chose. Il y a un cinéma, tout d'un coup, ils regardent ce qui passe et ils y vont. Ce qui est sûr, c'est que les premières éditions, à la fin des années 70, début 80, du festival de Lussas, a eu un très fort écho auprès de la population. Donc c'était la preuve que si l'offre existait, l'appétit était là, quoi.
nous, enfin, il y avait au moins la nôtre déjà d'attente. Et puis c'était milieu des années 70, début des années 80, cet afflux de ce qu'on appelait le phénomène néo-rural. Et donc on sentait bien que ces gens qui avaient des habitudes culturelles dans les grandes villes ou d'où ils venaient, étaient des spectateurs potentiels pour à la fois venir grossir les rangs d'art de chimage et venir aussi dans nos salles de cinéma.
Il y avait des gens qui aimaient le cinéma, qui avaient la passion du cinéma, qui avaient une telle passion que se dire « Oui, mais on va pas le faire parce que c'est pas possible, ça vient même pas à l'idée. » Cette question de la faisabilité, elle s'est effectivement posée après, quand les uns et les autres, on a voulu se professionnaliser.
On s'est mis autour d'une table et on s'est dit « Bon, maintenant, comment on concrétise tout ça ? Qui fait quoi ?» Donc Jean-Marie a dit moi je suis plutôt j'ai plutôt envie de réaliser des films et plutôt des films documentaires. Moi je me suis dit moi je serais plutôt un montreur, moi un passeur d'images, ça me plairait bien. Donc ça serait plutôt un cinéma. Et puis voilà. Et on s'est mis en quête de locaux.
Symptomatique de leur époque, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ces nouveaux navigateurs du 7e art se mettent en quête d'un lieu idéal pour vivre leurs rêves. En 1984, ils font l'acquisition d'un ancien hôtel situé dans le centre d'Aubenas, place de l'Airette. Ils commencent à le rénover avec les moyens du bord et un nouveau cinéma de 2 salles émerge, le Navire.
Bon, c'était des années assez fabuleuses, quoi, avec une grande entraide. Enfin, bon, on avait organisé une cantine, personne n'était payé, tout le monde venait. Et ils partaient soit parce que c'est un ancien hôtel, soit une très belle baignoire avec des pieds magnifiques, soit un bidet, soit un lavabo, soit des tomettes. Enfin, c'était du troc, quoi. Et je pense que ça a été très très important pour solidifier et pour ça a créé vraiment une famille autour de ce projet et qui a après tous ces gens ont été des ambassadeurs des salles de cinéma. La municipalité de l'époque ne nous a pas beaucoup aidés, pour pas dire même pas du tout, mais peu importe, c'était pas grave. Alors c'était quand même un peu précaire tout ça. Hein. Moi j'avais la chance j'ai ma famille qui est ici, donc qui m'a hébergé et qui m'a nourri pendant le projet. Jean était en situation de chômage, donc il a mis à profit cette année ou cette grosse année pour venir nous aider.
À un moment, il est devenu évident que on s'en sortait pas, ça tenait au fait que un petit cinéma, pour avoir les films, c'est une négociation permanente avec ceux qui ont les droits de diffusion en salle, les distributeurs, et si on est tout petit, on passe après les autres, quoi. Donc très vite est apparue la conviction qu'il fallait qu'on étoffe notre structure, qu'on devienne plus gros, quoi. Et en même temps, l'expérience qu'on avait initiée à Aubenas, pourquoi pas la reproduire là où il y avait une demande potentielle. Donc c'est comme ça qu'on est allé sur la Drôme, un petit peu sur le Vaucluse, et puis qu'on a développé un petit réseau de salles à réessai, indépendant, dans le même esprit, même si certaines salles sont moins pointues que ne l'était le Navire d'Aubenas. Ce qui nous a permis de prendre un petit peu de solidité, donc d'améliorer notre travail et notre proposition de film pour les gens.
La mise à l'eau du Navire s'est faite sans encombre, dans le partage et l'enthousiasme, en déployant beaucoup d'énergie et de ténacité. Quelque temps avant, Jean-Marie Barbe et d'autres activistes du film démarraient eux aussi leur aventure à l'USAS autour du documentaire. Après le festival Cinéma et Cheval, la petite bande de cinéphiles s'organise. Les installations précaires se pérennisent, les idées fusent et se concrétisent. Les efforts portent rapidement leurs fruits. En 1989, le petit village de Lussas accueille les premiers états généraux du documentaire. Des rencontres professionnelles autour du documentaire d'auteur qui deviendront un des principaux rendez-vous de France. Il faut du désir, il faut croire à ses rêves pour que tout cela advienne. Mais il y a un autre élément essentiel, la volonté politique. Au tournant des années 80, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, la culture prend son envol. Les nouvelles libertés, comme le soutien de l'État à la création artistique, permettent au cinéma de se développer dans les zones rurales du pays. Et tandis que le documentaire allait bientôt prendre ses assises à Lussas, le cinéma du navire, à Aubenas, ouvrait ses portes.
Quelque chose de très significatif aussi, même d'essentiel, c'est que c'est Mitterrand qui arrive au pouvoir en 81. Avec lui, dans son équipe, il y a un ministre, et depuis Malraux, on n'avait jamais trouvé mieux, qui s'appelle Jacques Lang. Et il a l'idée excellente, pour pas dire géniale, de regarder ce qui se passe, dans, comme ils disent à Paris, dans la province. Et la province, il y a beaucoup de salles, qui sont des salles associatives, ou des salles d'ailleurs... De paroisse, hein, paroissiale, qui sont pas en très bon état et qui sont même parfois fermées. Et il se dit, je vais créer une agence pour faire revivre ces lieux. Donc cette agence s'appelle la DRC, l'Agence de Développement Régional du Cinéma. Et cette agence, elle amenait des subventions donc aux porteurs de projets. Et deuxième idée géniale, elle se contentait pas d'amener des subventions et d'aider soit à la réfection, soit à la construction, puisque le navire historique est vraiment une pure construction. Hein. On a tout mis dans cet immeuble là et on a construit quoi. On a démoli avec nos propres mains d'ailleurs, nos propres moyens, avec l'aide de plein de copains. C'était des années assez fabuleuses quoi.
Le navire n'aurait jamais existé sans la DRC, c'est-à-dire au début des années 80, la politique de Jack Lang, qui a créé une agence pour le développement régional du cinéma, qui avait pour but d'aider concrètement les projets indépendants comme le nôtre. C'est comme ça que le navire est né. Et après, on est dans une profession qui a une aura énorme par ses stars, par ses réalisateurs, par etc. Mais c'est un tout petit monde. Et c'est un monde paradoxalement très solidaire. Je dis paradoxalement parce que il y a des gros circuits, Gaumont, Pathé, etc. Et puis il y a les petits indépendants comme nous. Et ces gens-là sont... Même s'ils ont des philosophies différentes, s'ils ont des économies différentes, ils ont une forme de solidarité qui déjà leur est imposée par un système de fonds de solidarité de l'ensemble des cinémas pour investir dans les salles. Ça veut dire que les plus gros, comme les plus petits, cotisent à un fonds de soutien et ce fonds de soutien ensuite est redistribué à ceux qui en ont besoin. Et plus on est petit et plus le projet est important en termes d'offres culturelles, plus cet apport économique est important. Ça nous permet, dans le projet du nouveau navire, ça a été déterminant pour constituer un complément d'apport sans lequel on n'aurait jamais pu y aller, quoi. Donc ça, c'est la petite parenthèse de l'économie de la profession qui explique pourquoi le cinéma en France se porte comme il se porte alors qu'il a quasiment disparu chez nos voisins étrangers.
Rapidement, le navire a eu le vent en poupe. L'offre de cinéma d'auteur en Sud-Ardèche a vite rencontré un écho auprès de la population. Jacques Domas et Jean Effner se souviennent de cet engouement de l'Ardèche pour le 7e art, qui leur a permis d'œuvrer dans l'éducation à l'image et la transmission de leur passion au jeune public.
Ce que ça a transformé, c'est que déjà, il y avait une offre plus diversifiée. Et plus l'offre est diversifiée, plus... l'appétit se développe et en même temps qu'il y avait cette offre de cinéma d'auteur, de cinéma à réessai, elle n'est pas arrivée toute seule, elle arrivait avec cette dynamique de cinéma itinérant, de festival de Lussas et en même temps avec le développement de ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation à l'image, c'est-à-dire d'amener le cinéma dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées pour former les jeunes publics.
ça a amené de nouveaux spectateurs. Je pense que il y a une partie de la population qui n'allait plus au cinéma parce que ils n'avaient pas de quoi se nourrir, hein, sans que, entre guillemets. On a créé un nouveau public et on a réussi jusqu'à, je sais pas, c'était plus de 30 000 spectateurs par an, ce qui était vraiment plutôt bien, quoi. Bon, c'est vrai que si on regardait le club, il était plutôt aux alentours de 120, 130 000, mais ce qui est normal. Et ça, on n'était pas jaloux de ça. Et ça a créé un tel engouement que il y a même eu dans les lycées albenaciens, il y a eu des billets de service, je sais pas le mot exact, pour dire aux profs et mettez un peu la pédale douce là, parce que il y a pas que le cinéma dans l'éducation, parce que il y a eu un rush énorme, parce qu'il y avait on a créé vraiment un désir, quoi. Mais on le sentait, nous, on n'en était pas complètement sûr, mais ça a été incroyable. Incroyable. On n'avait plus trop le temps d'être partout, quoi. Donc on a créé la maison de l'image justement pour être un peu l'outil d'animation du navire. Et ensuite la maison de l'image s'est développée et pour être ce qu'elle est aujourd'hui, elle est partout sur le territoire pour porter la bonne parole cinématographique. Parce que il faut pas oublier que même dans nos contrées, on n'est pas le trou du cul du monde, l'Ardèche. Hein. Faut jamais laisser dire ça.
Aura des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur.
Pour moi, la maison de l'image, c'est la partie professionnelle de l'association Grand Écran, si on veut, avec des missions spécifiques d'éducation à l'image. En fait, il y a la partie professionnelle, c'est-à-dire c'est une structure qui est affiliée à la Fédération des cinémas français, à l'Association française des cinémas d'art et essai, à l'Association nationale des cinémas itinérants, voilà, différentes instances professionnelles. Ça, c'est pour être dans le cœur du métier, pour savoir où on en est sur les techniques, la fréquentation et d'autres sujets importants au cœur de la filière, en fait, hein, cinématographique. Et puis bien sûr il y a la partie publique avec tout ce que l'on peut faire, toutes les missions que l'on a comme le circuit itinérant, amener le cinéma au plus près des gens, au plus près des spectateurs, avoir une programmation assez éclectique, diversifiée, le travail sur l'éducation à l'image, là c'est en temps scolaire et hors temps scolaire, donc là c'est public aussi. La Maison de l'Image est depuis l'année dernière co-coordinateur des dispositifs scolaires, maternels et écoles au cinéma, ce qui fait qu'on coordonne à l'échelle du département ce dispositif. C'est-à-dire qu'on est en lien avec toutes les salles d'Ardèche. Il y a une programmation qui est faite commune. On leur fournit des outils pour accueillir les élèves dans leur salle. On fait le lien avec la coordination nationale passeurs d'images, notamment. Donc là, on rayonne. Ça nous est même arrivé il y a 2 ans, en plein Covid, parce qu'on ne pouvait pas accueillir les élèves dans les salles de cinéma. Eh bien, nous avons arpenté le département pour faire des ateliers directement dans les écoles pour leur parler du cinéma et ne pas couper le lien cinématographique qu'ils ont chaque année. Ce sont vraiment des missions que l'on a cœur à défendre toute l'année, en fait, et chaque fois qu'on nous sollicite pour le faire, on essaie d'y répondre favorablement.
Si Cathy Géry, directrice de la Maison de l'Image, prend à cœur sa mission d'éducation, elle n'est pas seule à œuvrer pour la diffusion du 7e art dans la région. Autour des états généraux du documentaire, dont nous avons parlé un peu plus tôt, s'est créé un imposant pôle d'études cinématographiques dans le village de Lussas. À la fois école de réalisation documentaire, laboratoire d'expérimentation, centre de documentation, Ardèche Images, l'association pivot à l'origine de toute l'aventure de Lussas, joue également un rôle dans l'éducation à l'image de toutes et tous. Écoutons Chantal Steinberg, directrice de l'école documentaire de Lussas.
Ce qu'on a mis en place depuis quelques années aussi, d'une part, au sein de l'école, on a développé une activité d'éducation artistique, d'éducation à l'image, avec des ateliers de réalisation et de programmation qui se déroulent essentiellement en Ardèche, un peu en Drôme, avec des publics scolaires, des EHPAD, des hôpitaux, des prisons, qui sont animés par des jeunes femmes et des jeunes hommes, mais pas mal de jeunes femmes d'ailleurs, qui sont pour l'essentiel issus du master, dont une qui travaillait au sein d'Ardèche Images aussi, au sein de l'école, et une autre jeune femme qui est arrivée comme service civique ici et qui a vraiment impulsé et développé ce champ de manière absolument incroyable. On va vers des gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est, le documentaire d'auteur. On propose des ateliers qui sont des ateliers qui sont véritablement qui sont nourris par toute leur expérience ici et qui permettent à des gens qui n'en ont pas du tout le... Voilà, ça peut aller, je vous dis, de scolaire à des personnes âgées, mais à travers une expérience de cinéma documentaire, de faire l'expérience de sa propre créativité et d'une découverte aussi d'un cinéma qu'ils ignoraient, c'est-à-dire qu'ils voient aussi des films. C'est-à-dire c'est des ateliers qui mélangent la découverte par les films et la découverte par la pratique.
En principe, ce sont les plus jeunes, mais en fait, l'éducation à l'image, elle prend déjà son essence dans voir un film et avoir une programmation un petit peu spécifique, notamment particulièrement à RSC, avec du cinéma d'auteur. Avec les rencontres, on part donc dans le cinéma européen, mais toute l'année, on va dans toutes les cinématographies. C'est déjà ça, l'éducation à l'image, c'est déjà... comment on montre un film et pourquoi surtout on montre un film. Et puis après, il y a des décryptages qui peuvent se faire au niveau analyse filmique ou alors apprendre comment on va faire un film, comment ça marche. Par exemple, l'animation, le cinéma d'animation. C'est tout ce travail-là, en fait, qui est de l'éducation à l'image. Mais ça commence déjà par voir des films.
Proposer une grande variété de films venant des quatre coins du monde, des films plaisir mais aussi exigeants, accompagner ces films, provoquer des rencontres entre le spectateur et un monde différent du sien, toutes ces facettes de l'éducation à l'image sont essentielles pour attiser le désir de spectateur. Mais pour aller plus loin, ces structures proposent aussi au public de ne pas se contenter d'être devant l'écran, mais de passer derrière la caméra. Pour la Maison de l'Image, comme pour l'école documentaire de l'USAS, c'est un aspect important de leur mission éducative.
Il y a des stages photos qui sont faits, films aussi et réalisations. On peut le faire. On a notamment un dispositif qui s'appelle Mediapop, qui est en partenariat avec Résonance, l'association Résonance, et qui permet d'aider tous les jeunes qui ont envie d'avoir un projet audiovisuel, de réaliser un film et qui ont besoin d'équipement, de conseils. Voilà.
Ces deux institutions parviennent à susciter des vocations. Vocation de spectateur, d'abord, mais également de réalisateur. L'USAS est devenu l'un des principaux masters de France à faire venir de jeunes réalisatrices et réalisateurs pour étudier et pratiquer leur art au cœur de l'Ardèche méridionale. L'accueil des étudiants en immersion pendant 8 mois, depuis plus de 20 ans, œuvre aussi à rapprocher le cinéma des habitants. Chantal Stenberg nous explique comment.
C'est vrai qu'on constate dans la population locale, parfois une méconnaissance. En tout cas, moi, il m'est arrivé d'en parler à Aubenas, dans tel et tel endroit, et les gens avaient vaguement entendu parler, mais ne faisaient pas forcément le déplacement. Après, ce qu'il faut dire, c'est que quand même, depuis que l'école existe, donc ça fait, c'est la 23e promotion que représente ici Pierrick, tous les travaux de réalisation qui se passent dans le cadre de ce master se passent ici, sur le territoire, forcément. Essentiellement, il y a quelques exceptions. Ce territoire a été incroyablement documenté. Vous calculez, il y a 12 films de fin d'études par an, multipliés par 23. Alors, ils ne sont pas tous sur... quand même, l'immense majorité raconte des histoires, des paysages, des rencontres qui se passent dans un périmètre de 40 km autour de l'USAS. Les films, ils sont systématiquement tous montrés aux états généraux pendant les festivals. En plein air, et ça attire beaucoup, beaucoup de monde chaque année, de plus en plus. Par ailleurs, on fait des projections publiques à la fin, au moment de la projection de fin d'année des masters, c'est ouvert au public. On a eu des opérations diverses, à différents, notamment au Teil, il y a eu plusieurs expériences comme ça de présentation des films de fin d'études. Et ça, je pense que ça participe beaucoup de cette... Mais ça prend du temps, hein. Tout prend du temps de toute façon. Donc cette mise en réseau entre le territoire et cette activité qu'on développe ici, et dont on a très à cœur de maintenir une vraie exigence artistique. Il ne s'agit pas de transformer ce qu'on fait pour soi-disant le mettre au niveau de je ne sais pas quoi, parce que ça, c'est au contraire offrir ça au plus grand nombre.
Cette volonté se retrouve dans les états généraux du film documentaire, organisé chaque année à l'USAS en août. Ce temps fort est devenu au fil des étés une référence en matière de film documentaire, au niveau national comme international. Il attire nombre de professionnels, mais également un public aussi nombreux que divers.
Ce qui le caractérise par rapport aux autres grandes manifestations du genre, c'est qu'il est non compétitif. Il l'était à sa création, l'idée étant qu'il ne s'agit pas de mettre en concurrence les gens, mais plutôt d'ouvrir des espaces de réflexion, de parole. Et c'est aujourd'hui un des trois plus importants festivals de documentaires en France, et il est resté non compétitif. Et petit à petit, ça s'est ouvert très largement à un public intéressé, qui était composé de gens très différents, mais qui n'étaient pas nécessairement des professionnels. Et surtout, je crois que ce qui fait la singularité de ce festival, en lien probablement avec l'école qui existe ici, c'est que c'est un festival fréquenté par beaucoup, beaucoup de jeunes. C'est-à-dire que les festivals de documentaires, c'est quand même, si on va au Festival du Réel à Paris, il y a plus de cheveux comme les miens que comme les vôtres. Et c'est pas un mal en soi, hein, mais en tout cas, ici, il y a vraiment un renouveau et un intérêt très très fort pour ce type de cinéma et par des jeunes gens, quoi, très jeunes.
Est-ce l'esprit ardéchois qui privilégie la rencontre à la compétition ? Toujours est-il que l'autre grand festival de cinéma en Sud-Ardèche, porté également par l'association Grand Écran, et dirigé par Cathy Géry, est lui aussi non compétitif. Les Rencontres des cinémas d'Europe, tel est son nom, organisées chaque année fin novembre, réunit dans la ferveur et la convivialité des milliers d'amoureux du cinéma, néophytes ou fidèles.
Alors les cinémas d'Europe, ça représente 80, à peu près 80 films de toute la diversité que peut produire l'Europe en termes de cinéma. Ce sont des leçons de cinéma, ce sont des expos photos, ce sont des partenariats divers avec des amis de festivals comme le festival de Saint-Paul-Trois-Châteaux, le réseau Trace, le festival du premier film d'Annonay, le festival Connexion pour la réalité virtuelle. Et puis il y a une vingtaine d'invités chaque année, plein de rencontres avec des talents comme on dit maintenant. Je crois que j'ai fait le tour, je sais pas, un focus aussi, chaque année il y a un focus sur une thématique particulière. Ça aussi c'est un sujet qui nous tient à cœur cette année sur la jeunesse, genre et sexualité. C'est un festival qui se veut éclectique, dynamique, qui puisse aussi parler à tous les publics, parce que depuis 2019, on se donne aussi du mal sur la programmation jeune public et là aussi en lien avec l'éducation à l'image. On reçoit pas mal de scolaires cette année, on a plus de 4000 élèves inscrits. C'est toute cette dynamique-là pendant 9 jours qui fait plaisir. Mais on sent bien que les gens, c'est ça dont ils ont envie en fait, c'est d'avoir des séances accompagnées, c'est de rencontrer des talents comme je disais, donc des cinéastes ou des techniciens de cinéma, c'est accompagner les films et pas seulement être consommateur de cinéma, c'est vivre autre chose autour du cinéma et c'est ça qui est super. Django,
Django, have you always... C'est la magie du festival. Mais une fois la fête terminée, l'euphorie de l'événement passé, comment maintenir ce désir de cinéma au quotidien ? Retournons au navire, à la vie normale. Normale ? Pas tout à fait. Le cinéma connaît ses jours fastes. L'engouement, l'offre importante, entraîne le navire vers de beaux et larges horizons, tant et si bien que le petit cinéma d'auteur, né du désir d'une bande de copains, finit par racheter le palace, anciennement et futur le club, si vous suivez toujours, cinéma généraliste, au passage de l'an 2000.
il y avait déjà le club qui était en activité et qui lui exerçait plutôt sur un créneau, ce qu'on dit dans notre jargon généraliste, hein, plutôt des films grand public. Donc on voulait absolument pas entrer en concurrence. Ça a jamais été notre on a toujours fait très attention à ça, de pas aller marcher sur ces plates-bandes pour que ça soit pas conflictuel. Et d'ailleurs, on s'est toujours très bien entendu avec le propriétaire du cinéma club qu'on a fini par racheter parce qu'il était loin, il était sur la Savoie et c'est difficile de... Il faut qu'un cinéma, c'est un commerce, un cinéma. C'est un lieu où on doit être accueilli, on doit se sentir bien, on doit être informé. Il faut que ça soit incarné, alors par une personne ou des personnes, mais dans nos villes, nos petites villes, c'est indispensable. C'est pour moi, c'est le béaba. D'ailleurs, on le voit même dans d'autres commerces. Hein. Quels sont les commerces du centre-ville de Benoît qui fonctionnent bien? Ce sont les commerces qui sont incarnés avec une femme, un homme ou un couple ou d'autres, bon voilà, et qui ont des bons produits, qui en parlent bien, qui en font la promotion. Il y a du désir dans ces lieux. Je pense par exemple à ce nouveau bistrot qui vient de s'ouvrir en centre-ville, la Renaissance. Ben il y a du monde, ben parce que tout est fait pour qu'il y ait du monde. Et on a envie d'y retourner, et non seulement on a envie d'y retourner, mais on a envie d'en parler autour de soi, d'y emmener ses amis, de leur faire connaître le lieu. C'est comme ça que ça s'est passé avec nous, je pense.
Toujours une histoire de rencontre, d'amitié et de confiance. C'est ce qui s'est passé également en 2006, quand la SARL Le Navire se transforme en SCOP, Société Coopérative Ouvrière de Production, autrement dit, Société Coopérative et Participative.
La SCOP, c'est un statut juridique où les travailleurs sont les capitalistes. Voilà. Il y a eu un moment où, avec le temps... on n'est pas éternel, on commençait à se dire, et nous, quand on va s'arrêter, qu'est-ce qui va se passer? Nous, donc les anciens, principalement Jacques et moi, si on veut transmettre ça à d'autres, ça veut dire qu'on va vendre des fonds de commerce à qui sera intéressé, mais qui ne seront pas forcément intéressés de travailler dans le même esprit, qui ne vont peut-être pas avoir envie de garder l'équipe en place, voilà. La SCOP, c'est devenu l'espèce de double pot qui correspondait exactement à notre fonctionnement et à notre projet. C'est-à-dire la possibilité de transmettre l'outil à ceux qui l'ont forgé, c'est-à-dire l'équipe en place, et de dire, ben voilà, on est tous, c'est pas la même galère, c'est le même navire, on est tous embarqués là-dedans. Vous avez contribué, chacun à son niveau a contribué à faire exister ça, à le faire avancer. Maintenant, si vous êtes d'accord, on transforme les statuts pour que tout le monde devienne associé et que quand nous on s'arrêtera, eh ben, vous continuerez, vous choisirez l'un d'entre vous, aujourd'hui c'est Christophe Maffi, comme capitaine du navire. Et c'est très satisfaisant.
Dernier épisode de la série « Le navire a du succès ». En 2017, face à l'impossibilité d'effectuer les aménagements d'accessibilité requis, la SCOP décide de transformer la contrainte en opportunité et lance un nouveau projet de cinéma dans un autre lieu.
Ça a permis de créer un lieu qui soit en ville, ce qui est très important par rapport au rôle que joue le cinéma dans la cité, hein, que ça soit un lieu d'animation permanent, que par ailleurs ça soit un lieu qui reste accessible aux scolaires, ça c'est important. Voilà, que les gens peuvent s'approprier. Alors c'est pas encore fini, la ville s'est beaucoup transformée, mais il y a sûrement encore des transformations à venir pour que le cinéma soit plus intégré dans la ville. Mais enfin, ça fonctionne pas mal quand même, hein. Là on voit qu'après 2 ans de difficiles entre confinement, Covid, etc., ça y est, les gens ont retrouvé le chemin du cinéma, ça va bien, on se retrouve tous, voilà. Et c'est vrai que le nouveau cinéma, nous, dans notre cahier des charges, on voulait au moins autant de salles que ce qu'on avait avant. Donc on les a. On ne pouvait pas en faire plus parce qu'on voulait grand confort. Des fauteuils spacieux où on avait la place pour les jambes, avec des très bons dégagements de tête pour tout, etc. Enfin voilà, on voulait le must. Voilà, on a toujours considéré que c'est pas parce qu'on était en Ardèche qu'on n'avait pas droit au meilleur. Donc on a le meilleur.
Et aujourd'hui, et demain, comment continuer à faire venir les gens en salle? Y a-t-il des films qui ont encore cette capacité?
Oui, mais il y en a peut-être, et il y en aura peut-être moins qu'avant, parce que il y a aussi des choix stratégiques de la part de majors, hein, comme par exemple Disney, hein, qui a annoncé qu'effectivement certains de ses films ne sortiraient plus en salle, mais directement sur la plateforme Disney. Et effectivement, pour certains exploitants de cinéma, c'est un vrai problème, parce que c'est vrai que ça a amené des gens en salle et ce public-là ne viendra plus. Mais bon, il y a énormément quand même de films. Disney ne fera pas non plus n'importe quoi. Il sait très bien aussi que les films qui sortent en salle, ouais, quand ils sont après sur des plateformes, ils marchent très bien, alors que s'ils n'ont pas été vus en salle, ils ne marchent pas sur plateforme. C'est un peu paradoxal, mais il y a quand même tout un process qui se met en place. Et bon, il voit bien quand même que tout n'est pas idéal à sortir sur une plateforme. Donc peut-être qu'il y aura moins de films qu'avant, en tout cas moteurs. C'est vrai que là, si on prend depuis décembre 2021, il y en a trois en fait. C'est le Spider-Man qui sort sur la fin de l'année 2021, c'est Top Gun, Et puis en juillet, et puis La Voix de l'eau, Avatar, là en décembre. Ça fait peu, alors qu'avant on pouvait trouver pratiquement un film par mois qui était très fédérateur et moteur pour les salles. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qui change, en tout cas actuellement, mais peut-être que ça va s'estomper, et puis c'est Louis Garrel, hein, qui disait que lui, justement, il croit au retour en salle des publics. Il pense que cette habitude que les gens ont pris de se mettre devant leur télé et de profiter de ce qui est proposé sur une plateforme va s'estomper, et que on va revenir quand on va être sûr de pouvoir vivre comme avant, comme avant Covid. Eh bien, le public retrouvera la salle de cinéma, parce que ça reste, et puis c'est ce qu'on défend en France, hein, c'est le lieu dans lequel on découvre une œuvre, hein, c'est la salle de cinéma. Après, elle va sur des plateformes, mais sa première sortie, sa première expérience, c'est au cinéma, dans une salle.
Et comment maintenir ce désir de cinéma ? Malgré les écueils et les difficultés du cinéma d'auteur, nos intervenants se veulent plutôt optimistes. Et finalement, ce qu'ils disent, c'est toujours une histoire de désir, personnel, collectif, mais aussi politique. C'est du désir que naît la réalité.
Alors, je crois qu'il faut le maintenir par la diversité. Par exemple, mon collègue Thiago, qui est parti au Brésil, dans son pays, pendant les vacances, il m'expliquait que un complexe de 8 salles, il y avait 6 salles qui diffusaient Avatar. Bon, ça, c'est un truc qu'on ne verra pas en France. Dans un cinéma, quel qu'il soit, même comme ça, avec 8 salles, jamais un exploitant va mettre 6 salles sur 8 avec le même film. Ça aussi, c'est important de rappeler qu'en France, on défend quand même beaucoup, beaucoup de choses, et les œuvres aussi en particulier, même s'il y aurait certainement des choses à revoir et il y a des choses à redire, mais en tout cas, on préserve des œuvres. Donc c'est cette curiosité-là sur des filmographies étrangères, donc comme on fait avec aussi les cinémas d'Europe.
On a eu à une époque un soutien, disons, des puissances publiques qui étaient quand même... C'était des alliés objectifs et très engagés. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils se soient désengagés pour l'instant. Disons que leur soutien est maintenu au même niveau qu'il l'était il y a 6 ans. Donc, ça veut dire que ça baisse. Comment faire pour continuer à... Pour continuer ce qu'on veut faire avec des moyens... qui vont être, qui seront pas tout à fait les mêmes probablement. Un modèle de rentabilité quand on fait de l'éducation et de la culture, moi je refuse de, enfin ça c'est ma position, hein, évidemment ça n'engage que moi, de rentrer dans cette logique-là, parce que j'estime que la force publique a le devoir de soutenir l'action culturelle et de soutenir l'éducation et de soutenir la santé, et que ça ne doit pas devenir une histoire de rentable. Ça ne peut pas l'être et ça ne doit pas l'être. Je suis optimiste parce qu'il y a des jeunes gens qui ont le désir de faire ça, de défendre cette forme d'art, parce que c'est une industrie, mais c'est quand même enfin, c'est un art. Je suis optimiste à cause de ça. Je suis optimiste parce qu'il y a du désir. En face, c'est très difficile, ouais. C'est très difficile. Bon, il y a eu l'histoire. Bon, le cinéma en salle, c'est qu'il a subi d'une part l'effet Covid, mais aussi l'arrivée des plateformes et cette espèce d'efferlante. Enfin, il y a des modes de lien au cinéma qui sont en train de muter complètement. Donc ça, il faut y penser. Et par ailleurs, il y a cette frilosité de nos politiques face à tout ce qui n'est pas immédiatement transformable en chiffres.
Ouais, exact, voilà. Exact.
Et ça, je pense que je suis optimiste dans la mesure où j'espère que la jeune génération ne va pas prendre ça, si je puis me permettre, pour argent comptant, quoi. Ouais.
Je suis pas très inquiet. Mais il faut rien lâcher. Enfin, il faut continuer à faire de l'éducation à l'image, même si ça paraît un peu ringard. Bon, mais si ça s'adapte maintenant, il y a la maison de l'image d'ailleurs, tout ce qui est nouvelles images. Bien sûr, il faut s'y intéresser. Il faut sauter sur tout ce qui bouge. Il faut vraiment que le cinéma, infuse, qu'on soit là et qu'on fasse comme on a fait quand on était dans notre petit navire. Il ne faut pas diaboliser les choses. Les jeunes, il faut juste leur proposer. Voilà. Et puis, c'est à eux, ça sera à eux de jouer. Je ne suis pas très inquiet, moi. Alors, moi, je serais un peu aveugle si je ne disais pas que la nouvelle façon de consommer, entre guillemets, ou de voir des films, bien sûr, ça passe par les plateformes. La série s'installe bien aussi, mais moi j'ai une foi inébranlable dans le cinéma. Le cinéma, c'est le septième art. Dans le septième art, comme dirait Godard, il y a art. Et l'art, on en a tous besoin. Je veux dire, c'est ce qui nous fait nous lever le matin. On a tous besoin de penser, on a tous besoin de beauté, on a tous besoin de s'évader, on a besoin de se mettre. Et puis, bon, rien ne remplacera cette obscurité, ce partage collectif, mais en même temps on est seul, mais on est ensemble devant un écran qui va nous raconter une histoire. Toutes les utopies ne fonctionnent pas peut-être, mais moi je pense que ce public, j'allais dire, qui était déjà un peu convaincu, ou on va dire formé, qui est arrivé dans ces années, fin des années 70, début des années 80, qui sont installés dans les Cévennes un peu partout, qui ont fait revivre des maisons, qui sont souvent investis dans des associations, voire sont devenus maires de leur village. Ben, ces gens-là ont été essentiels pour nous, et leurs utopies, ils les ont construites, qui dans l'élevage, qui dans de la micro-entreprise. Donc voilà. Et donc c'est mais encore aujourd'hui, c'est peut-être plus difficile, mais c'est possible. Moi, je suis sûr que c'est possible, bien sûr.
Merci à Jeannot Salavert, Chantal Stenberg, Christophe Maffi, Cathy Géry, Jean Hafner, Jacques Domas, pour avoir partagé leur expérience et leur amour du cinéma.
Thank you.
venez d'écouter Aura des Pâquerettes, une émission proposée par Aura FM, la fédération des radios associatives non commerciales.
Merci de votre écoute et à bientôt sur cette antenne, à la rencontre d'un autre territoire. Une émission en réécoute sur le site aurafm.org.
Aura des Pâquerettes.